Le tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable.
Juridiction.
Convocation
analytique.
Assignation.
La
procureur.
Amiable.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Procédure.
Incompétence.
Amiable.
Signalement.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
Usignation.
La grande
constitution.
Amphithéotique.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Requête.
Citation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, c'est donc la 9e émission du Fil d'Ariane. Petit rappel, si vous voulez écouter nos émissions précédentes, vous pouvez les retrouver sur notre blog et sur le site de Radio Canu. Aujourd'hui, effectivement, on ne va pas parler de l'état d'urgence, même s'il y a beaucoup de choses à en dire, mais on va parler de l'hébergement d'urgence. Et pour commencer, de quoi on parle quand on parle de l'hébergement d'urgence?
Alors, petite définition tout d'abord de l'hébergement d'urgence. Alors, sachant que c'est une définition assez difficile, donc on va plutôt procéder par exclusion. L'hébergement d'urgence, ce n'est tout d'abord pas du logement. C'est-à-dire que ce qui est reconnu comme distinguant les deux notions, c'est que l'hébergement, c'est plutôt quelque chose de temporaire, en tout cas dans l'esprit initial, et que le logement est censé s'insérer dans la pérennité. Quand on regarde un peu les définitions aussi, il y a l'administration notamment qui va distinguer selon le statut des occupants. L'hébergement d'urgence, ça va plutôt être donc des occupants qui n'auront pas forcément de titre d'occupation, puisque, et on va l'expliquer un peu plus tard, l'occupation en fait dans le cas de l'hébergement d'urgence relève de la loi, d'un droit en fait reconnu à une mise à l'abri pour une personne en situation de détresse, alors que quand on parle de logement, on est plutôt dans des situations où il y a soit un bail, soit un titre d'occupation, c'est-à-dire un contrat signé par la personne et le lieu qui l'héberge. Je simplifie un petit peu, parce qu'en réalité, on peut retrouver des contrats dans des lieux d'hébergement d'urgence, mais malheureusement, on n'aura pas le temps d'entrer dans tous ces détails-là. Et également, ce qui va un peu distinguer l'hébergement d'urgence du logement, c'est ce qu'on appellera le principe d'inconditionnalité. On va aussi revenir un peu plus tard, mais ça signifie concrètement qu'il n'y a pas nécessairement de sélection du public, c'est-à-dire que certains logements peuvent être dédiés à certains types de publics, alors que dans l'esprit de l'hébergement d'urgence, c'est pour toute personne en situation de détresse, donc quelle que soit sa situation familiale, administrative, financière, etc. Donc, pour résumer, l'hébergement d'urgence, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée de mettre à l'abri une personne qui est face à une situation de détresse et face à une situation d'urgence avec sous-jacent une certaine précarité dans l'hébergement d'urgence, contrairement donc à la logique du logement. Et pour terminer cette définition d'introduction, l'hébergement d'urgence, ça relève de la responsabilité de la préfecture, donc de l'État, et non pas de la commune, donc non pas de la ville. Voilà, malgré le fait que parfois il arrive que les communes hébergent également des personnes dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Mais la loi prévoit que cette responsabilité pèse sur la préfecture.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Deuxième définition, avant d'entrer donc dans le vif du sujet, c'est la définition du plan froid. Alors là aussi, c'est une notion qu'on utilise dans le langage courant. En réalité, juridiquement, ça renvoie simplement à un renforcement des capacités du plan d'hébergement d'urgence, donc de ce qu'on appelle la veille sociale, pendant la période hivernale, sachant que l'administration considère de principe que c'est du 1er novembre au 31 mars, mais en réalité, les plages peuvent être plus larges ou plus réduites, puisque actuellement, toutes les personnes devant entrer dans le plan d'hébergement d'urgence, par exemple, ne sont pas encore hébergées, effectivement, dans le cadre du plan froid. Donc l'idée, c'est de renforcer un peu les structures d'accueil, de renforcer aussi le personnel, donc les écoutants, c'est le terme, du 115, mais également des maraudes supplémentaires, avec beaucoup de communication, souvent de l'administration, donc des préfectures sur le plan froid. Et donc avant de continuer, juste quelques chiffres. J'ai repris le dossier de presse donc de la préfecture du Rhône 2014-2015, puisque sauf erreur, je n'ai pas trouvé celui 2015-2016, encore en ligne en tout cas, qui évoquait 3230 places permanentes, dont 1550 d'hébergement d'urgence. Et d'après rue 89 Lyon, pour l'année donc 2015-2016, donc le plan froid actuellement en cours, 1200 places supplémentaires auraient été ouvertes. Pour mettre un peu en contexte, donc il y a effectivement beaucoup de communication, puisque la préfecture préfecture du Rhône augmente la capacité d'accueil, notamment dans le cadre du plan froid d'année en année. Mais ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'on est quand même toujours largement en dessous des besoins d'hébergement d'urgence, donc de mise à l'abri des personnes, que ce soit plan froid ou hors plan froid, donc tout au long de l'année. Et également pour le contexte, aussi important de savoir que la France a d'ailleurs été condamnée sur cette question-là, notamment par le Comité européen des droits sociaux, plusieurs années en arrière, on parle de 15 ans en arrière si, de mémoire, pour des carences structurelles dans la proposition des places d'hébergement d'urgence, donc pour les personnes sans abri.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc on va parler du droit à un hébergement, mais alors quelle est sa place dans le système juridique et quelles sont les sources de ce droit à l'hébergement ?
Le droit à l'hébergement, c'est... pendant longtemps, ça a été un droit qui était un peu formel, c'est-à-dire que c'était une sorte de proclamation, et ça, il constituait uniquement une obligation pour l'État d'essayer de mettre justement des structures d'hébergement en place pour permettre d'accueillir les personnes sans abri. Mais depuis la loi du 5 mars 2007, qui est la loi dite DALO, donc la loi du droit au logement opposable, c'est devenu ce qu'on appelle un droit opposable, c'est-à-dire un droit qui est individuel, qui appartient à la personne, et qu'on peut faire valoir devant un tribunal. C'est donc ce dont on va traiter aujourd'hui. Sachant que donc le code de l'action sociale et des familles reconnaît que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Dans le dispositif d'hébergement d'urgence, on comprend le gîte, le couvert, l'hygiène. Il y a une notion de dignité de la personne qui est prise en compte également. Et puis l'idée, c'est que c'est un lieu aussi où il y aura une évaluation médicale, sociale, donc une prise en charge finalement de la personne qui est mise à l'abri. Et donc, il pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Donc, l'idée vraiment de cette loi, ça a été de faire en sorte que ce ne soit plus qu'une une obligation de moyens, c'est-à-dire que l'État construise ou mette en place des structures, mais bien que la personne puisse revendiquer ce droit, y compris devant un tribunal. Alors, on va le voir, ça reste tout à fait relatif dans l'application concrète, mais c'est, en tout cas, ça a été une petite révolution juridique à l'époque, on peut le dire, quoi.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc on parle d'un droit à l'hébergement, mais quelles sont concrètement les obligations pour l'administration ?
Alors, premier droit et logique, c'est le droit d'accéder à un hébergement. C'est un droit qui est censé être accordé à tout moment, donc immédiatement en cas de mise à la rue d'une personne, par exemple. Donc, elle est censée avoir immédiatement accès à un hébergement d'urgence, sans condition, si ce n'est donc la situation de détresse, et on va développer un peu plus loin ce que ça représente concrètement, la situation de détresse pour l'administration et puis pour les tribunaux. Et puis, également, c'est un droit donc d'accéder à un hébergement, quelle que soit sa situation financière. Donc, on ait les moyens, si on n'a pas les moyens donc d'accéder à un logement payant, donc quelle que soit sa situation financière, familiale, mais également quelle que soit sa situation administrative. Donc par exemple, une personne en situation irrégulière a le droit d'accéder à un hébergement d'urgence. C'est ce qu'on appelle le principe donc d'inconditionnalité. Quelle que soit sa situation, on a ce droit là et la matérialisation de ce droit, ça va être dans différents lieux, donc des lieux qui peuvent avoir des statuts juridiques différents. Simplement pour lister et survoler un peu ces différents lieux, ça peut être des centres d'hébergement d'urgence, donc des foyers, des hôtels privés également, où la préfecture va faire le choix de payer un hôtel privé nuit par nuit pour héberger les personnes, mais également des points d'accueil, des gymnases et puis d'autres lieux qui peuvent être ouverts uniquement, notamment dans le cadre du plan froid, pour héberger des personnes qui nécessitent une mise à l'abri.
Oui, et si le droit à un hébergement d'urgence a été consacré, il ne faut pas oublier que la personne qui demande un hébergement n'a pas la possibilité du choix de cet hébergement. Le seul critère légal qui est prévu est celui du caractère adapté. Mais cette notion est appréciée très restrictivement. C'est-à-dire, concrètement, l'administration va prendre en compte les lourds problèmes médicaux. Par exemple, l'administration va normalement pas proposer un hébergement qui se situe au 6e étage si la personne va être en fauteuil roulant. En revanche, elle va pas forcément prendre en compte les problèmes respiratoires, elle va pas forcément prendre en compte les problèmes de santé qui nécessitent un repos au cours de la journée. Elle peut proposer un hébergement qui fermera la journée et qui se contente juste de proposer un lit alors même que cette personne justifie d'une situation médicale difficile. Le juge, l'administration puis le juge considérera que l'hébergement est adapté. De même, si les enfants sont scolarisés sur Lyon, mais qu'on leur propose un hébergement à 40 km avec des transports en commun possibles pour que l'enfant aille à l'école, on considère que l'hébergement sera adapté. La personne n'a donc vraiment pas le choix de cet hébergement. J'ai été face à une situation où il était question d'une mère célibataire avec 6 enfants entre 1 an et demi et 17 ans. On leur a proposé, après des semaines à la rue, un hébergement d'environ, sans rire, 15 mètres carrés, 2 lits superposés, donc pour des enfants qui ont entre 2 et 7 ans. Faut quand même imaginer ce que ça implique, hein, c'est-à-dire qu'on laisse son enfant de 5 ans en haut du lit superposé. Et ils étaient 3 dans le lit double. C'est-à-dire que, et même ça, on considère que ça va être un hébergement adapté. Alors qu'en fait, il manque une place, ils sont 7 et ils sont pas 6, et que voilà, les conditions sont très difficiles. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a un droit au maintien, c'est-à-dire qu'on a toujours le droit de demeurer dans un hébergement d'urgence. On a dit en introduction que c'était pas un hébergement pérenne, effectivement, mais l'administration ne peut pas, en théorie, expulser une personne d'un hébergement d'urgence, à moins que la personne le souhaite ou qu'une orientation soit proposée à cette personne. On attire vraiment l'attention des personnes à ce que, lorsque l'administration demande aux personnes de quitter les hébergements, il faut toujours se renseigner avant de quitter cet hébergement, parce qu'une fois que vous quittez cet hébergement, il sera très compliqué d'y revenir. C'est-à-dire que la place est fermée et on passe... l'administration ne va pas vous reloger. Or, il y a des droits, parce que voilà, il y a ce droit au maintien.
Et donc, on conseille simplement, dans ces cas-là, de prendre conseil auprès d'une association. On pense à l'ALPIL, par exemple, dont on va parler plusieurs fois aujourd'hui, ou d'un avocat éventuellement, mais enfin voilà, en tout cas, sans forcément qu'il y ait une position de principe, mais en tout cas, de ne pas hésiter à prendre conseil si jamais l'administration dit voilà, vous devez quitter les lieux, quoi.
Et aussi, une des pratiques de l'administration qui est assez courante, c'est de remettre les gens dehors 2-3 jours avant la fin de la trêve hivernale. Et donc on arrive avec des personnes qui, le 1er avril, sont à la rue et n'ont plus de solution d'hébergement. Il y a plein de places d'hébergement d'urgence qui ferment à cette période. Et donc voilà, c'est compliqué ensuite de retrouver un hébergement. Alors que, vraiment, on insiste, hein, en théorie, l'administration ne peut pas faire sortir une personne d'un hébergement d'urgence sans lui proposer une nouvelle orientation.
Moi, j'ai une toute petite question, peut-être vous allez en parler après ou pas, mais je sais qu'à un moment ça s'est pratiqué, alors je ne sais pas si ça se pratique encore, mais en tout cas les lieux hébergeants font signer des contrats aux gens pour dire vous vous engagez bien à partir partir à la fin de la trêve et tout. Du coup, on est d'accord que ce contrat il vaut rien.
Et ben voilà, en fait c'est vrai que c'est une bonne question, parce que même nous, en tant que juristes, on a parfois des difficultés. Toutes ces conventions, souvent elles sont d'ailleurs différentes en fonction des lieux d'hébergement d'urgence, elles n'ont pas forcément de valeur, et il faut faire attention. C'est pas parce qu'on signe qu'on ne peut pas se maintenir en fait dans le lieu d'hébergement d'urgence. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
c'est effectivement un débat d'ailleurs juridique qui a été soumis à plusieurs tribunaux avec différentes réponses apportées à cette question. Certains contrats vont plus ressembler à un règlement intérieur en fait. Donc c'est pas réellement des contrats d'occupation. D'autres structures vont faire signer réellement un contrat, mais effectivement la question de la valeur de ce contrat se pose, puisque la loi prévoit un droit au maintien qui est opposable donc à l'administration. Donc c'est véritablement un débat et qui est d'ailleurs toujours en cours devant les tribunaux.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc on parle de ce droit à l'hébergement, mais comment est-ce qu'on le fait valoir à l'encontre de l'administration ?
Alors c'est comme d'habitude, pour faire valoir ce droit, il faut avoir un dossier complet. Non, en fait, je dis comme d'habitude parce que c'est souvent quelque chose sur lequel on revient. C'est-à-dire qu'il faut faire valoir, enfin il faut montrer quand même qu'on a fait des démarches avant de pouvoir éventuellement saisir un juge ou en tout cas l'administration. Du coup, pour les démarches à faire, c'est d'abord d'appeler le 115, donc le SAMU social, puisque les appels sont enregistrés et du coup permettent de faire apparaître la situation. Et puis à Lyon, donc là c'est plutôt une réalité locale. Il faut faire des démarches auprès de la maison de la veille sociale, qui est une sorte de, qui est le guichet unique des structures d'hébergement. Donc ça peut être des démarches qui peuvent être faites par des rendez-vous qui peuvent être pris avec les services de la maison de la veille sociale ou des courriers qui lui sont adressés. Éventuellement, alors ça c'est plutôt dans notre pratique d'avocat, de faire des courriers à la direction départementale de la cohésion sociale de l'État, donc de la préfecture, pour avoir des traces aussi de toutes les démarches qui sont faites. Dans ces démarches-là, ce qu'on recommande évidemment, c'est toujours dès qu'on a fait un rendez-vous, d'avoir une trace du rendez-vous qui a eu lieu, pour ceux qui ont envoyé des courriers, de garder une copie des courriers qui sont faits. Après, souvent, c'est des démarches qu'on fait accompagnées soit par un travailleur social, soit par une association, soit par un avocat. Donc, souvent, le dossier, il est constitué par ces personnes-là. Mais si on fait les démarches seules, ce qui est tout à fait possible, il faut garder ces traces-là parce qu'on va, demander, l'administration va réclamer et le juge va réclamer la preuve de ces démarches-là. Est-ce que vous voyez autre chose comme démarche à faire pour la demande d'hébergement?
Peut-être simplement signaler aussi une chose pratique, c'est que tous les appels au 115, donc les appels téléphoniques sans écrit, sont censés être enregistrés. Donc il faut toujours bien donner prénom, nom et puis identité et signaler qu'il y a toujours une absence de solution d'hébergement.
Oui, et en ce moment, le 115 a tendance à dire aux personnes « rappelez dans 5 jours, on a bien entendu, rappelez dans 5 jours ». Non, il faut appeler tous les jours le 115.
Ça permet de monter le dossier, c'est vraiment ça. Du coup, si ces démarches n'aboutissent pas, si malheureusement on n'est pas hébergé malgré ces démarches, normalement on devrait s'en tenir là. La situation actuelle qu'on rappelait tout à l'heure, c'est vraiment un manque structurel de place, donc fait que, en général, c'est pas le cas. Dans ces cas-là, on peut saisir le juge, donc c'est le juge administratif, qu'on connaît avec toute la nuance qu'on peut apporter sur son rôle de gardien des libertés. Donc tout se passe au tribunal administratif et il y a deux possibilités qui peuvent se cumuler. On peut faire ce qu'on appelle un recours d'ALO, qui est la procédure spécifique qui a été mise en place pour le droit au logement opposable et le droit à l'hébergement opposable, et éventuellement une procédure de référé. Donc on reviendra un peu là-dessus après. Donc sur le recours dit d'ALO ou d'AO, droit à l'hébergement opposable, pour arriver dans le juge, il faut d'abord commencer par saisir la commission d'ALO, qui est une commission préfectorale qui se réunit régulièrement. Alors j'avoue, je ne connais pas la fréquence de leur réunion, mais pour la saisir, en fait, concrètement, il faut faire un recours amiable et il y a un formulaire CERFA qu'on trouve sur Internet, sur tous les sites habituels, services publics. Enfin, il suffit d'aller dans Google pour faire demande d'hébergement et le formulaire sort, qui permet en fait de faire valoir sa situation. Donc c'est là qu'on va justifier des démarches qu'on a déjà engagées, les appels au 115, les courriers, les rendez-vous qu'on a eus. C'est un formulaire qu'on peut remplir seul ou pareil, se faire accompagner par une association ou par un travailleur social qui va reprendre la situation, la composition du ménage, les ressources, les démarches déjà effectuées. Et au regard de la situation qui lui a présentée, la commission va statuer pour savoir si la personne ou la famille est prioritaire ou non. En général, en matière d'hébergement, c'est souvent que les personnes sont considérées comme prioritaires. Et à partir du moment où la commission reconnaît la personne comme prioritaire, le préfet a un délai de 8 semaines, non ? 6 semaines, pardon. 6 semaines pour faire une proposition d'hébergement adapté. Donc pendant ces 6 semaines-là, par contre, il ne faut pas juste attendre que le préfet propose un hébergement. Il faut continuer à faire les démarches qu'on a déjà invoquées, donc maison de la veille sociale, 115, etc. Et si au bout de 6 semaines, il n'y a pas de proposition, c'est là qu'on a la possibilité de saisir le juge. Et donc le juge, regarde la situation, va ce qu'on appelle enjoindre l'État à désigner un hébergement adapté à la personne au regard de la situation. Donc en général, l'avantage, c'est qu'on gagne à tout coup. C'est sûr. Le problème, c'est qu'en fait, ce n'est jamais exécuté ou très mal ou très difficilement. C'est-à-dire que quand on va, pour le coup, en tant qu'avocat, quand on va faire ces audiences-là, on sait qu'on va gagner parce que voilà, le texte est clair, le préfet est obligé d'héberger, il ne l'a pas fait. Donc on finit par gagner, mais en fait, au final, ce qui est le plus compliqué, c'est l'exécution du jugement, c'est-à-dire que la mise en pratique, ça peut mettre beaucoup de temps, voire n'être jamais fait. C'est-à-dire que pour un monsieur seul, j'ai une situation en tête pour laquelle j'ai une décision au mois de janvier, il a fini par être hébergé 6 mois plus tard, sachant qu'il était lourdement handicapé. Enfin voilà, c'était pas une situation. Mais de toute façon, toutes les situations sont dramatiques. Donc voilà, c'est pas inutile, ça fait un argument de plus par contre pour obtenir un hébergement, mais l'effectivité est quand même assez limitée.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Oui, alors il existe aussi la possibilité de faire un référé liberté fondamentale devant le juge administratif. Depuis 2012, le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême dans l'ordre administratif français, a consacré le droit à un hébergement d'urgence reconnu comme une liberté fondamentale. Ce qui veut dire donc concrètement que depuis 2012, on peut faire un référé liberté fondamentale sur le fondement que on n'a pas d'hébergement et qu'on sollicite un hébergement d'urgence. Ceci étant dit, le juge considère de façon très restrictive cette urgence et la situation de détresse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va passer devant un juge administratif, un juge unique, qui va avoir 48 heures pour juger s'il considère que la situation est très urgente. Donc on doit vraiment apporter énormément d'éléments pour que le juge considère qu'il y a un véritable danger pour la personne ou pour la famille de ne pas les héberger de façon urgente. Le juge considère de façon tellement restrictive ce caractère urgent et de détresse que on n'ira devant le juge que si il y a... disons qu'aujourd'hui le juge considère de façon très restrictive cette situation et donc on est face à des situations de détresse, mais qu'on doit... c'est compliqué, mais il faut vraiment que ce soit un état de détresse, c'est-à-dire des enfants en bas âge, mais quand on entend des enfants en bas âge, c'est-à-dire des enfants de moins de 1 an... Vraiment, c'est-à-dire des enfants de 4 ans, on considère que la situation de détresse n'est pas forcément caractérisée, que faut que la personne soit atteinte d'une maladie très très grave, très très douloureuse. Donc c'est un recours qui existe, mais qui en pratique est de moins en moins utilisé.
Quelques illustrations peut-être sur ce critère de détresse, juste pour se représenter à quel point l'administration et puis les juges aussi peuvent aller loin dans ce qu'ils vont exiger pour le retenir. On a par exemple vu la situation d'une fille, d'une jeune fille, petite fille même, de 13 ans, qui était en fauteuil roulant et un refus de prise en charge de l'hébergement donc pour cette petite fille. D'autres situations avec des enfants atteints de pathologies extrêmement lourdes, pareil, refus de prise en charge. Sur une année, la DDCS, donc la direction départementale, la préfecture, avait considéré qu'effectivement, au-delà de l'âge de 3 ans, il n'y avait pas nécessairement de situation de détresse. Et je crois même, si je ne me trompe pas, que ce seuil a même été abaissé encore l'année d'après.
Enfin, oui, voilà, je crois bien.
Ouais. Mmh. Voilà, pour vous donner quelques illustrations, il y en a peut-être d'autres.
Voilà. Également. Et donc, si le juge considère qu'il y a une urgence et qu'il y a une situation de détresse qui est caractérisée, là, il va enjoindre à la DDCS de proposer un hébergement d'urgence. Ce jugement sera... dans la plupart des cas, appliquée, contrairement à la procédure DAO évoquée précédemment. L'ordonnance du juge des référés liberté fondamentale est appliquée, exécutée par l'administration.
Donc, en fait, pour résumer, il y a un droit opposable avec des leviers juridiques, mais une mise en pratique qui est quand même assez compliquée et une appréciation du juge qui est parfois très restrictive. C'est pas le cas pour le DALO, mais par contre, dans l'effectivité, c'est quand même assez compliqué. Donc, on peut que vous conseiller, face à une situation comme ça, de vous faire accompagner, soit par un travailleur social, soit par une association, soit par un avocat, éventuellement, mais en tout cas, s'il faut aller jusque devant le juge, c'est utile, à mon avis, de pouvoir se faire accompagner.
D'ailleurs, quand j'y pense, la situation que je décrivais tout à l'heure, cette femme avec 6 enfants célibataires qui était à la rue, on avait dû déposer un référé liberté qui avait provoqué cette proposition d'hébergement de la part de l'administration avant que l'audience ait lieu. Souvent, on fait un référé liberté pour provoquer aussi une réaction de l'administration qui va forcément devoir revoir la situation.
Dernier petit conseil pratique aussi, c'est effectivement rappeler, il faut toujours se faire accompagner, notamment d'un travailleur social et des associations. Il y a notamment l'ALPIL qui est ultra compétente en la matière et qui tient des permanences. Et autre petite attention aussi, c'est le défenseur des droits, notamment quand il y a des enfants concernés qu'il ne faut pas hésiter à saisir puisqu'il peut prendre position, notamment s'il y a un recours qui est tenté devant un tribunal.
Le mot qu'on comprend rien.
Alors aujourd'hui, dans le mot qu'on comprend rien, on va définir la mise en état. Donc on change complètement de sujet. Là, on ne parle plus d'hébergement d'urgence et on ne parle même plus de procédure qui se déroule devant le juge administratif. On parle d'un, c'est un terme en fait qui est utilisé en procédure civile. La mise en état, c'est quand on est dans une procédure écrite, par exemple une procédure de divorce. C'est la phase en fait pendant laquelle on met le dossier en état. Quand je dis on, en fait, ce sont les avocats et leurs clients qui mettent en état le dossier pour le présenter à la toute fin au juge. Ça veut dire qu'en fait, on échange nos arguments et nos pièces, ça veut dire nos documents justificatifs par écrit, et que c'est seulement quand on a vraiment écrit tout ce qu'on avait à écrire et qu'on a développé tous nos arguments par écrit de part et d'autre, qu'on dit au juge qui surveille cette mise en état, qui s'appelle d'ailleurs le juge de la mise en état, qu'il peut clôturer l'affaire et à ce moment-là fixer la date de plaidoirie pour que le dossier soit finalement plaidé devant le juge et montré au juge qui rendra la décision. Donc voilà, c'est un petit terme qu'on entend souvent, que nos clients entendent souvent, et souvent ils ne comprennent pas trop de quoi on parle. Des fois, ils nous disent, mais il y a une audience de remise en état, ils ont l'impression qu'on remet en état le dossier. Mais voilà, donc c'est un terme assez fréquent et c'est pour ça qu'on voulait le définir aujourd'hui. Donc voilà, c'était notre 9e édition du Fil d'Ariane. On espère vous retrouver bientôt.
Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous écrire sur notre blog. Et la prochaine émission, ce sera sur l'état d'urgence.
Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le blog.
Sur le blog.
Eh ben, merci de nous avoir écoutés. On va vous laisser avec une 30 secondes de bande continue. Le temps à Idée Noire, l'émission de la coordination des groupages anarchistes, de s'installer dans le studio. Et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Où sont-ils? Que font-ils? Pourquoi? Comment? Où ça? Attention. Fiche anthropométrique, dossier biométrique, contrôle douanier, interdit de station. Territoire fermé, défense de rêver, pas de permis d'exister, nomade, exilé. Tribu errante, souffre tolérance, chaos nomade, souvent en partance.